Les attentats du 13 novembre 2015 ont par eux-mêmes engagé une chaîne d'action judiciaire. La constatation des faits par le procureur, la nomination d'un juge d'instruction et l'ouverture d'une information judiciaire ont justifié et apporté les moyens nécessaires à la recherche des auteurs et des circonstances de leurs actes. Alors, qui sont les détenteurs de ces moyens exceptionnels ?
Partie civile, un podcast Live for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 3. Qui mène l'enquête ?
Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ces professionnels et leurs moyens, en commençant par le binôme de magistrats experts de l'antiterrorisme, avec à sa tête Jean-François Ricard.
Jean-François Ricard qui est le premier procureur national antiterroriste et qui est secondé par une magistrate qui s'appelle Camille Entier, qui sera l'avocate générale à notre procès, c'est-à-dire chargée de porter l'accusation, et qui a été responsable en fait d'une grande partie de l'enquête dès le soir du 13 novembre. Si on regarde la procédure, elle était là le soir même, et c'est une des plus grandes connaisseuses en France du monde antiterroriste, de ses réseaux, de ses filières, et elle mène un travail incroyable depuis des années, relativement dans l'ombre, hein, si vous regardez, vous trouverez pas vraiment de photos d'elle pour des raisons de sécurité, mais c'est une des grandes magistrates antiterroristes françaises.
Si les magistrats de ce rang sont aussi protégés, c'est aussi parce que leurs fonctions sont très larges, intrusives et exécutoires. C'est-à-dire que lorsqu'un magistrat formule une demande, en l'ayant justifiée ou pas dans certains cas, l'appareil judiciaire l'exécute. Pour aller plus loin, nous avons demandé au commandant de police Rachid Adizi de nous expliquer l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction.
Ça va de l'audition des parties, la partie civile, les témoins assistés, à l'audition bien sûr de la personne mise en examen, bien entendu, mais également tous les autres actes matériels qui peuvent consister en des transports sur les lieux, une reconstitution par exemple, un événement qui s'est produit, des perquisitions, des saisies, il peut s'agir aussi des expertises. Par exemple, on peut demander à ce que l'on nous fournisse un certain nombre d'éléments concernant les opérateurs téléphoniques pour connaître s'il n'y a pas eu des appels qui ont été passés, etc. Bon, voilà. Mais également l'audition de la confrontation des parties, parce qu'il peut y avoir effectivement une confrontation des parties.
Donc, on comprend bien que le juge adresse des demandes, qu'on appelle des commissions rogatoires, pour fouiller les preuves qui peuvent valider des pistes. Pour ça, le magistrat travaille en collaboration avec les enquêteurs qui le renseignent sur des éléments d'indice à approfondir. Les services de police mobilisés sur l'enquête sont nombreux, mais pour faire la différence avec les séries, et surtout des séries américaines qui faussent notre vision de l'enquête à la française, on a demandé au spécialiste des affaires non résolues, Stéphane Berthomé, de nous aider à comprendre qui est affecté à l'enquête.
Donc le profiler, ces choses-là, on est loin de la réalité, mais il y a quand même eu des grosses évolutions. Il y a surtout, en fait, par rapport à l'imaginaire qu'on se fait, qu'on se construit en regardant justement les séries télé, il y a une différence culturelle très forte, c'est-à-dire que la façon d'enquêter aux États-Unis, dans le système anglo-saxon, ou en France et en Europe, est très différente. Les bases de l'enquête ne reposent pas sur les mêmes fondements, même si les uns et les autres se valent. L'enquête policière française repose principalement sur les constatations de la scène de crime, évidemment les éléments médico-légaux, judiciaires, tout ce qui touche à l'analyse scientifique de la scène de crime, mais aussi à la connaissance des réseaux, à l'expérience des policiers qui participent à ces enquêtes-là, qui sont souvent des gens qui travaillent depuis des dizaines d'années, qui ont non seulement la connaissance globale de la façon d'enquêter, de la façon de mener ces dossiers-là, mais aussi qui ont une connaissance précise des différents réseaux, de leurs intervenants, de leurs participants, des liens qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Et cette expérience-là, pour pas dire cette expertise-là, elle est assez unique quand même dans le monde de la lutte contre le terrorisme.
En France, c'est la scène de crime et les constatations qui y sont faites qui prévalent. Une fois cette première étape décisive effectuée, c'est la course au réseau et aux infos qui commence. Pour poursuivre les individus soupçonnés, il faut prouver par tous les moyens qu'ils sont coupables. Et pour ça, la méthode française est de mener une enquête à charge qui consiste à rassembler toutes les preuves qui portent l'accusation et à décharge pour s'assurer qu'il n'existe aucun élément qui contredit sa culpabilité.
En fait, c'est un fond théorique, qui est effectivement très différent entre le système anglo-saxon de la common law et le système d'enquête à l'européenne, qui est un système d'enquête qu'on appelle à charge et à décharge, c'est-à-dire que la police va et est censée collecter de l'information à la fois qui pourrait impliquer ou incriminer des suspects, mais qui pourrait aussi les sortir d'un mauvais pas, comme par exemple trouver un alibi ou vérifier de façon absolument complète que telle personne ne pourrait pas avoir participé aux faits. Dans le système anglo-saxon, c'est un peu différent, mais en France, le système fait en sorte que c'est effectivement entre les mains de la police que repose une grande partie de la charge de la preuve. On peut très bien avoir une mise en examen sans pour autant qu'on ait validé la capacité à condamner finalement la personne. On va laisser à une cour de justice le choix final, en tout cas la décision finale, de savoir si on condamne ou pas la personne. Les éléments d'enquête et les éléments d'instruction sont distincts de la phase finale d'une éventuelle condamnation et il appartient à chacun, aussi bien aux policiers qu'aux juges d'instruction, d'apporter des éléments en cours de route et une fois ces éléments apportés, on passe à la phase de jugement.
Dans le cadre des attentats du 13 novembre, qui est une affaire française avec des ramifications internationales, le procès aura lieu sur la base des informations récoltées par les policiers mobilisés et le juge d'instruction qui a mené l'enquête. Lors de nos échanges en amont de notre entretien, Stéphane Berthomé a insisté sur le fait qu'il ne faut pas considérer son témoignage comme celui d'un expert, mais plutôt comme celui de quelqu'un qui partage une expérience professionnelle et personnelle. Dans ce cadre, il a souhaité donner son sentiment sur ces policiers, dont on ne parle jamais, mais qui sont pourtant derrière l'enquête qui permettra au procès des attentats du 13 novembre de s'ouvrir le 8 septembre 2021.
Ce que je peux rajouter, c'est peut-être une touche un petit peu plus personnelle. Vous savez, les policiers qui luttent contre le terrorisme sont rarement amenés à s'exprimer dans les médias, etc., par d'anciens policiers comme moi. Et je pense que c'est bon de rappeler aussi que quand il y a un acte d'une telle importance que les attentats du 13 novembre ou quelque acte de terrorisme que ce soit, les policiers se sentent tous profondément concernés, profondément impliqués et ont tous un sens extrêmement profond et sincère de leur mission, de la nécessité, de l'importance de leur mission. Et si je peux peut-être apporter ce point qui est de rassurer certaines victimes qui parfois peuvent avoir l'impression que le système de justice est froid, qu'il est complexe, qu'il est distant, qu'il leur donne pas toujours accès à ce dont ils ont besoin derrière ces barreaux qui existent, derrière cette sorte de séparation justement entre les citoyens et le système policier ou le système de justice, il y a vraiment des hommes et des femmes qui se donnent à fond et qui mettent vraiment leur trip pour sortir ces affaires-là, pour trouver les éléments, qui travaillent corps et âme pour résoudre ces dossiers-là. Moi j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai connu énormément, j'en ai connu de très talentueux, des gens qui ont sacrifié leur vie personnelle pour mener à bien leur mission. Et il faut le rappeler parce qu'il y a quand même aussi de belles choses qui se passent de ce côté-là.
Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015, rescapés et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris. Écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation d'Arthur Desnouveaux, Stéphane Berthomé et Rachid Azizi. Interview menée par Cécile Bobille et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobille. Production, Léa Bobille. Chargée de production, Cécile Bobille. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.